Actu SF, les podcasts.
Bonjour et bienvenue à tous à cette table ronde intitulée « La fantaisie, une lecture d'évasion ». Alors, pour vous présenter cette table ronde, on a quatre invités. On a Ariel Holtz en bout de table, qui était le prix Imaginal de jeunesse en 2018 avec les sœurs Carmine, que vous avez peut-être connues. À ses côtés, vous avez Adeline Ruel, autrice jeunesse qui était prix Imaginal des écoliers en 2020 avec la toute petite librairie. À côté d'elle, Florence Cochet, notre autrice suisse, enseignante de français, apparemment en Suisse, toujours, qui écrit pour la jeunesse et pour les adultes. Et à mes côtés, Christian Léourier, notre auteur confirmé, en jeunesse et en adulte également, que vous avez peut-être connu par son cycle de Lanmeur et qui vient de clore son diptyque 10 heures de mots. Cette table ronde est interprétée en langue des signes, comme vous pouvez le constater. Nous avons Ludivine qui interprète cette table ronde et il y a également son collègue Nicolas qui prendra le relais, j'imagine, en cours de séance. Je vous propose que, si vous le souhaitez, nous applaudissions à la fin de cette table ronde à la manière sourde en faisant comme ça, si ça vous dit. Comme ça, on sera accessible jusqu'au bout. Si ça vous dit. Donc nous allons parler d'évasion dans cette table ronde. Celle-ci pourra prendre différentes formes, car se plonger dans vos histoires à tous, c'est déjà s'évader du monde réel. On va commencer avec Adeline. J'avais prévenu. Dans la toute petite librairie, les histoires... Alors, on en a parlé, mais du coup, je vais vous faire redire ce que vous m'avez dit. Je disais, les histoires sont personnifiées, il faut les sauver. Et je disais, personnifiées, est-ce que c'est le bon terme ?
Et non, et du coup, je disais que non. Parce qu'en fait, dans mon histoire... Alors, dans la toute petite librairie, en fait, on a une libraire un petit peu spéciale et qui, son rôle, c'est de sauvegarder les histoires. Et en fait, les histoires sont représentées sous forme de petites lucioles qui s'échappent des livres, puisqu'en réalité, ce sont les âmes des histoires, en fait. Et du coup, elles ne se sont pas personnifiées, mais en fait, elles sont vraiment incarnées plutôt par des... Voilà, c'est l'âme des livres et c'est l'âme des histoires qui tournent autour de nous, en fait, et qui nous entourent.
En tout cas, c'est très bien rendu dans le roman, c'est très joli à imaginer. La morale, c'est un petit peu que c'est nécessaire au monde. C'est un petit message à vos jeunes lecteurs ?
Oui, en fait, j'avais vraiment envie dans ce roman d'amener les jeunes lecteurs à la lecture, donc aussi bien les lecteurs qui n'ont pas du tout en fait envie de lire, du coup c'est pas des lecteurs, mais d'amener vraiment les enfants, leur donner envie de lire, parce que il y a beaucoup d'enfants qui sont pas du tout intéressés par les livres, et en fait je pense que c'est pas juste qu'ils aiment pas lire, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le bon livre pour eux, la bonne histoire. Donc c'est pour ça, en fait, j'avais envie de... Donc je suis partie d'un petit personnage, donc le héros Augustin, c'est un enfant qui n'aime pas du tout lire. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, il va comprendre, il va vraiment avoir beaucoup de mal à se mettre à la lecture, mais finalement, il va comprendre vraiment la magie des mots. Et donc pour le coup, c'est vraiment magique. Et donc le pouvoir des histoires aussi, et le fait de développer son imaginaire et tout ce que ça peut vouloir dire, quoi, en fait, le pouvoir de l'imagination.
Et justement, vous le dites, votre petit héros, il n'aime pas lire du tout. On en connaît tous, je pense, des enfants qui n'aiment pas lire. Est-ce que c'est un choix pour toucher, justement, vous avez un peu répondu, pour toucher les lecteurs réticents, ou comme la mère du héros, qui donc est libraire, mais manque de bol, son fils, il n'aime pas lire. Comme lui, est-ce que vous avez dans votre entourage un enfant qui, ça ne lui parle pas trop, alors que vous êtes écrivaine, et du coup, c'est un petit peu embêtant.
Non, alors en fait, il se trouve que je suis vraiment dans un entourage de lecteurs. On aime les livres depuis des générations, donc du coup on est vraiment, enfin moi j'ai grandi entourée de livres et c'est vraiment, et c'est cet amour de la lecture et des livres que j'avais envie de transmettre. Donc tout simplement j'avais envie d'emmener les lecteurs, enfin les enfants vers la lecture, en essayant de dédramatiser ça, en disant regarde le héros, oui, il aime, comme toi, il aime pas lire en fait, mais regarde, finalement il va se passer qu'il va vivre telle aventure qui va lui révéler finalement c'est pas si nul de lire, quoi. Il y a un intérêt vraiment à lire, quoi.
Et puis Paris réussi, puisque vous avez eu le prix des écoliers avec cet ouvrage-là. Mmh. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des jeunes lecteurs. C'est ça. Peut-être des qui n'aimaient pas lire, du coup.
C'est vrai que l'année dernière, donc, quand je suis intervenue dans le cadre de la version automnale en fait, des Imaginales, j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer des classes de CM2. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est une maman qui est venue avec son garçon en disant « Mais mon garçon n'aime pas du tout lire, mais il a dévoré votre livre et il veut le tome 2. » Et du coup, là, c'est l'émotion, quoi. On se dit « c'est voilà, mission réussie, en fait. J'ai réussi. Ouais. » Donc, voilà.
C'est super chouette. Et vous me parliez de vos futurs projets, de continuer... de partir plutôt sur des podcasts, mais toujours pour proposer des aventures.
Oui, en fait, là, avec un ami qui est réalisateur sonore... Ah, pardon. Ah. Oh mince, c'est trop fort. Avec un ami qui est réalisateur sonore, en fait, on va se lancer dans l'aventure des podcasts. Donc, lui, il est déjà dedans, mais il m'emmène dans son aventure en tant qu'auteur. Et du coup, l'idée, c'est vraiment... on va faire une campagne de financement participatif et on va travailler sur des séries. Donc, pour le coup, ça va plus être de la science-fiction. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir rendre accessibles des univers imaginaires au plus grand nombre. Donc, par l'intermédiaire de ces podcasts qui vont vraiment être... donc, ça va s'appeler les épopées. Donc, ça va arriver. Hein, il faut juste qu'on travaille un peu. mais voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment un univers sonore très riche. Et en fait, c'est comme une bande-son cinéma, mais sans les images. Enfin, c'est vraiment tout à l'audio. Voilà, c'est un travail comme ça. Et donc, c'est passionnant, en fait, de travailler. Parce que c'est complètement une autre façon d'écrire et tout aussi intéressante, quoi. Donc, okay. Voilà.
Rendez-vous pour en parler bientôt, l'année prochaine peut-être.
Oui, ce serait bien. Faut qu'on s'y mette.
Alors l'évasion, c'est aussi être emporté par l'héroïne de Florence Cochet, Lorena Scott. Dans votre roman d'urban fantasy, même un peu fantastique, j'étais un peu partagée. Urban fantasy, fantastique.
Les deux.
Ouais, hein, les deux.
Les deux. Moi, j'aime beaucoup mélanger les genres, donc. J'avais un aspect thriller fantastique dans la tête, ouais. Et l'héroïne a fait que ça a été catégorisé, on va dire, en urban fantasy. Mais au fond, on est un peu à la croisée des genres.
Oui, un petit peu. Donc en fait, finalement, c'est elle qui vous a emmené.
Il y a beaucoup de monde dans ma tête tout le temps qui me parle beaucoup. Et elle m'a emmené très très loin, Lorraine, effectivement.
Donc en fait, finalement, cette trilogie-là, donc je ne l'ai peut-être pas dit, le tome 3 vient de sortir. Votre trilogie, donc le tome 3 clôt la trilogie. Et du coup, c'est parti de quoi ? C'est parti d'une histoire ou c'est parti de votre héroïne alors ?
J'ai l'impression que les héros m'arrivent avant l'histoire. J'avais envie d'un personnage qui avait des capacités... mais qui resterait très humaine dans ce développement des capacités, à savoir qu'elle ne deviendrait pas une super-héroïne et qu'elle resterait très humaine dans ses réactions. Mm-hmm. Et ensuite, elle est partie dans le Gévaudan et dans ce château hanté, tout est parti de là.
Oui, ça part un petit peu... c'est à ce moment-là que ça commence à partir. Alors, comme le titre l'indique, votre premier tome, en tout cas, s'appelle « Un gardien enchaîné », l'évasion, on est dedans. Il y a une enquête, comme vous disiez. En fait, ça part un peu comme un thriller, finalement. Il y a une enquête. Elle est censée découvrir pourquoi il y a des phénomènes paranormaux. Moi, j'avoue que j'ai été emportée par la personnalité de votre héroïne. Donc, que vous me disiez qu'elle arrive avant... Et ben finalement, je suis pas trop étonnée. Moi, j'ai noté qu'effectivement, c'est une femme comme vous et moi qui se révèle avoir des pouvoirs, mais pour autant qui est normale, qui est humaine. C'est pas une super héroïne. Elle fait au mieux.
Et elle s'en prend plein la tronche tout le temps.
Ouais. Oui, vous êtes pas tous très cool avec vos personnages. On va en parler, à vrai. vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire, du coup.
Alors, Lorena Scott est parapsychologue, donc chasseuse de fantômes. Elle est engagée par un homme d'affaires qui s'appelle Sir Talmor pour aller débarrasser son château en rénovation de revenants qui hantent les lieux. Sur place, il y a deux équipes d'ouvriers, une équipe anglaise, une équipe française. Les Anglais résident tout le temps dans le château, pas les Français, étonnamment. Et elle va se rendre compte qu'en fait, tout le monde lui ment. Aucun personnage n'est ce qu'il semble être vraiment. des meurtres vont commencer à se produire, mais pourquoi ces meurtres ne touchent que l'équipe anglaise, c'est le mystère dont elle va devoir percer le secret.
Elle en découvre également un peu plus sur son histoire familiale, elle ne s'y attendait pas, le lecteur non plus en l'occurrence, on se rend compte que ça dépasse un peu tout le monde. Pour vous, c'était important que le lecteur puisse s'identifier à un personnage finalement très humain. Elle est pas, enfin voilà, elle a son petit caractère. Il lui arrive, comme vous dites, il lui arrive plein de choses dans la tronche. Et pour autant, elle fait au mieux. Elle découvre son histoire. C'était important pour vous tout ça ?
Je ne suis pas sûre en fait d'avoir vraiment réfléchi à ce qui était important au départ. Pour moi, c'était le personnage. J'aime que le personnage il soit vraiment tangible pour le lecteur. Et que le lecteur puisse, au fond, s'identifier réellement, sans avoir l'impression que tout lui arrive facilement. Elle doit se battre à chaque fois. À chaque fois, elle tombe. Et elle se révèle dans le dernier tome, au moment où tout ce qu'elle sait, enfin, tout ce qu'elle croit savoir, s'écroule un petit peu, et qu'elle découvre tout ce qu'elle est réellement.
Mais elle en ressort plus forte.
Elle en ressort plus forte. J'aime bien les femmes fortes.
Une héroïne qui n'est pas forcément héroïque au premier abord, c'est votre héroïne, Arielle Holtz. Liviane, personnage de Pénombre, donc roman qui est sorti en 2021 aux éditions 404. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman ?
Donc, Pénombre est un roman one-shot de dark fantasy. On est dans un univers purement imaginaire, donc là, place à l'évasion. Et donc on est sur Astravia. Astravia, c'est un monde constitué de beaucoup de royaumes, beaucoup d'empires, beaucoup de territoires et de nations avec des organisations culturelles et gouvernementales très différentes, qui ont un problème commun. Leur problème, c'est une éclipse. Astravia possède trois lunes et lorsque l'une des lunes passe devant le soleil, ce qui se produit tous les 30 ans, elle déverse des ténèbres plus ou moins irradiantes sur le monde qui vont contaminer les êtres vivants, rendre fous les humains, déformer les paysages. On a vraiment une notion miasmatique. Les monstres qui naissent de cette éclipse sont nommés les miasmes et ravagent le monde. Et la seule source de défense du monde contre ces miasmes, ce sont les enfants, les nouveau-nés qui naissent pendant l'éclipse. Donc l'éclipse dure une seule minute et il y a donc assez peu de nouveau-nés qui, tous les 30 ans, naissent au cours de cette éclipse, qui deviennent des éclipsiens. Les éclipsiens, ce sont des sortes de magiciens qui ont chacun un pouvoir lié soit à l'ombre, soit à la lumière, de façon très diverse. Il peut y avoir des pouvoirs très physiques, comme créer des lames de lumière ou étrangler les gens avec des ombres vivantes, ou entendre au contraire parler les ombres des êtres et des objets, qui est une forme de télépathie. Et ce qui est le pouvoir de l'héroïne, justement, Liviane, qui n'a pas un pouvoir d'action particulièrement posé, même si elle va se révéler être une femme d'action, là encore. Et ces éclipsiens sont formés dans une académie qui s'appelle Pénombre, une sorte d'académie de magie. Et le roman va commencer 3 ans après la destruction de cette académie, justement, pour faire un peu un contre-pied au roman d'académie et d'apprentissage. Donc on est sur une héroïne qui est fragmentée. Elle commence on la découvre par plusieurs flashbacks successifs qui vont rattraper l'histoire à la fin du livre dans son adolescence. Et au début du roman, elle est dans la vingtaine, elle a 22 ans. Et Liviane, se rendre compte que l'éclipse arrive avec beaucoup plus d'avance que prévu et qu'elle dure beaucoup plus longtemps et que le monde est condamné, le monde d'Astravia est condamné à court terme. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de rassembler les anciens élèves, les rares survivants de la destruction de Pénombre pour former une espèce de mission suicide, une équipe de la dernière chance pour se rendre dans une terra incognita de ce monde et essayer de découvrir la raison de l'éclipse et essayer de la contrer. Donc voilà ce que je peux en dire.
C'est parfait. Et c'est une héroïne qui est très touchante parce que dès le début, c'est drôle parce que la toute première page, vous mettez un peu à mal les légendes en disant bon, alors on a dit d'elle qu'elle parlait aux ombres, alors déjà c'est pas ça. Elle vit dans une tour, bah, c'est pas ça non plus. Et c'est assez drôle cette première page.
Oui, alors vraiment, c'est un roman que j'ai voulu un peu en contre-pied de l'heroic fantasy, du coup, vu que c'est de la dark fantasy, donc c'est quelque chose d'assez dur avec les personnages, d'assez sombre dans ce que ça raconte et dans la mythologie du monde. Et oui, donc j'ai voulu prendre beaucoup le contre-pied de tout ce qui va être légendaire, tout ce qui va être héroïque. Donc dès le début, on est dans la conception d'une légende qui est racontée sur Livian par des bardes, etc., qui est totalement fausse. Je joue avec le lectorat, je lui apprends que lui va connaître la vérité sur cette personne. De la même manière, comme je l'ai expliqué, c'est un monde où il y a beaucoup de royaumes, beaucoup de nations, etc., mais qui ne sont vraiment pas très importantes, car toute l'intrigue va se situer dans cette terra incognita dont on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, les gens n'y vont pas, car ils meurent très rapidement. Donc tous ces royaumes, en fait, vont colorer les personnages. Chaque personnage, en fait, chaque survivant dans l'équipe vient d'un royaume différent, à peu près. Ils ont tous une culture particulière, une raison d'agir liée à leur royaume. Et là encore, j'ai voulu jouer de ça. C'est un côté facétieux. Il y a une carte au début du roman, mais elle ne sert vraiment pas à grand-chose. Parce que c'est vraiment, je trouve, un classique des romans de fantasy de mettre la carte au début du livre et puis voir tous les noms et tout ça. Et moi, je fais référence, pour le coup, quand je parle de ce roman, à un autre roman qui n'est pas du tout dans le même genre, qui est un roman qui s'appelle Hyperion, de Dan Simmons, qui est de la science-fiction. Et je parle de narration émergente, dans le sens où on va donner les clés, on va répandre une espèce de... Je vais expliquer un peu Hyperion pour qu'on comprenne le lien. En fait, dans Hyperion, vous êtes dans un univers de SF très dense qui existe depuis des centaines, enfin des siècles et des siècles, et ils vous balancent là-dedans. En plus, il y a 6 personnages différents qui ont chacun leur voix au chapitre et chacun leur histoire. Ils vous balancent plein de termes, d'époques, de personnages, et ils vous expliquent rien, quasiment rien. Donc parfois, il y a une technologie qui est vaguement expliquée, mais même sur les extraterrestres, les vaisseaux et tout, vous n'avez que votre imagination. Vous avez des termes qui sont très frappants, des termes très esthétisés, très, très marquants. Et c'est à vous de faire votre sauce, quoi. C'est vraiment le minimum syndical, quoi. Et voilà, c'est ce que j'appelle la narration émergente, parce que tout est caché sous la surface et ça va émerger au fur et à mesure avec les termes que le lecteur va voir, un peu comme des écueils qui surnagent. Et voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc là aussi, on est un peu dans le contre-pied de la fantaisie classique.
Et il y a aussi énormément d'humour. Alors, il y a beaucoup de violence, de scènes de carnage, je pense qu'on peut le dire comme ça. faut appeler un chat un chat. mais il y a également beaucoup d'humour. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup ri quand les ombres parlent à Livian. Bah, elle a une vie qui n'est pas toujours terrible parce qu'elle sort, les ombres l'insultent quand elle passe. Enfin, c'est drôle et en même temps, on se dit, oh, bah, si c'est ça son quotidien, c'est pas foufou. Vous faites cohabiter du coup de l'humour assez noir, de l'humour humour, des scènes assez terribles, peut-être les uns pour atténuer les autres, ou juste c'est votre style et vous aimez bien comme ça?
Alors c'est un peu des deux pour le coup, c'est vraiment mon style. Pour ceux qui connaissent peut-être ce que j'ai écrit à côté, il y a toujours beaucoup d'humour noir, beaucoup de macabre. J'aime aussi beaucoup le cynisme, donc ça va être toujours très, très ironique, toujours très sarcastique ou sardonique pour le coup. Et alors Pénombre, c'est peut-être celui de mes romans où il y a le moins d'humour, donc je suis content que les rares traces d'humour soient quand même révélatrices. Oui, alors c'est quelque chose que je pense qu'on peut parler de choses très sérieuses en rigolant, et parfois ça permet de mieux les appréhender, donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup.
Oui, moi ça m'a fait rire. Christian Léourier, vous venez de sortir le tome 2 de 10 heures de mots qui s'appelle Danseuse de cordes. C'était un diptyque, donc vous finissez votre diptyque, mais vous terminez, voilà. Votre premier tome avait eu le prix Elbakine du meilleur roman français en 2019. Alors vous, c'est pareil, vous n'êtes pas hyper sympa avec vos personnages. Vos dons, ils peuvent facilement passer pour des malédictions quand même. Je pense à Kelt, qui est une sorte de prophète des mauvaises nouvelles. Quand
il est obligé de dire la vérité, il ne peut dire que la vérité. Essayez, vous allez voir, c'est pas franchement confortable.
Donc c'est pour ça, vous leur donnez des dons qui ne seraient pas bons dans la vraie vie, d'accord. Donc en fait, vous souhaitiez que les pouvoirs que vous donniez à vos personnages ne fassent pas d'eux non plus des surhommes finalement.
Non, effectivement, non seulement ça ne fait pas d'eux des surhommes, mais ça s'inscrit en contre-champ de l'évolution du monde dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que le fond du roman, c'est l'émergence d'un monothéisme dans une culture polythéiste. Et l'affrontement des deux, évidemment. Et donc, mon personnage qui dit la vérité, lui, est un incroyant complet, parce que le fond du fond, c'est que le monde est impermanent, et même les dieux meurent. Et donc, la seule vérité, c'est ça, c'est le doute, l'incertitude dans lequel on est bien obligé de vivre.
Effectivement, bah, comme vous dites, vous parlez de la religion. En fait, dans votre univers qui est très dense, vraiment très riche, il faut vraiment s'y plonger pour vraiment tout saisir. Vous parlez de religion, de pouvoir, de la guerre également. Vous souhaitez que ce soit un prétexte pour susciter la réflexion de vos lecteurs sur des choses plus grandes ?
Oui, enfin, je pense que la fonction de la science-fiction, d'où je viens, puisque c'est mon premier roman de fantasy pour adultes, c'est ça, c'est de faire réfléchir à la situation, enfin, soit une situation marquée, enfin une technologie, une organisation sociale, soit débordée sur des questions encore plus philosophiques, quelle est la place de l'homme dans la nature, etc. Et là, la fantasy peut aussi avoir cette fonction. Je parlais de l'impermanence de toute chose. Bon, vous n'êtes pas obligé de le croire. Je veux dire, vous pouvez réfléchir effectivement à votre propre conception du monde.
Donc vous amenez la vôtre dans vos romans ?
Oui, forcément, au bout d'un moment.
Vous n'êtes pas obligé.
Oui, effectivement, on peut inventer quelque chose de complètement à l'inverse, mais bon. Le Celte me ressemble beaucoup, sauf que je mens de temps en temps.
Dans vos livres, alors dans le vôtre, mais en fait finalement dans tous vos livres à vous quatre, il y a un décalage entre la perception que les personnages peuvent avoir d'eux-mêmes et la façon dont ils sont perçus. Vous avez choisi de le faire pour peut-être interroger ?
D'abord, au premier chef, c'est un ressort dramatique. Parce que quand on écrit un roman, il faut trouver effectivement le moyen d'intéresser le lecteur et de. Ensuite, je pense que c'est notre lot à tous. Entre la perception qu'on a de nous-mêmes, de nos intentions, ce qui en sort et ce que les autres comprennent, et c'est l'auteur qui vous parle, là, on sait d'avance que c'est différent. C'est-à-dire que chacun va amener sa propre vision, sa propre conception du monde, sa propre préoccupation. Il va trouver dans un roman ce qu'il cherche, ou au contraire, il va se dire, mais ça ne va pas du tout, c'est pas du tout comme ça que moi je pense. Donc forcément qu'on a toujours ce décalage qui est incarné par les personnages que l'on met en scène.
Les autres, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je pense que chaque auteur a sa vision du monde à proposer. Lorsqu'on parle de la fantasy comme une lecture d'évasion, il ne faut pas oublier que derrière, y a des humains qui l'écrivent et qui sont influencés par moult choses de leur quotidien. Et c'est une façon pour nous de, d'avaler et de régurgiter à notre sauce ce qu'on voit et de, d'amener à réfléchir peut-être sur des choses qui nous frappent, particulièrement quand on est dans un registre un peu ironique ou de la satire, etc. Et même, même dans, dans ce qui va être des conceptions plus, plus réalistes quand on cherche à faire des textes, à construire des univers basés sur, sur notre réalité et à proposer autre chose. Donc derrière, il y a toujours une réflexion par rapport à de l'existant et ça va être vraiment l'interprétation de l'auteur, de la présenter et au lecteur après de se faire sa propre idée par rapport à ça.
Dans les personnages aussi, eux ont leur propre perception. Les personnages qui entourent ce personnage ont une perception d'eux. Et parfois, chez moi, j'ai aussi l'impression que je ne connais pas mon personnage et qu'il va m'emmener, en fait, sur une route que je n'avais pas du tout prévue pour lui ou pour elle. Quand j'écris, j'ai toujours un point de départ et un point d'arrivée. Moi, j'ai prévu une route assez rectiligne et eux, au final, me font faire des détours sans cesse. Donc, est-ce que je connais vraiment mes personnages et est-ce que j'en ai une perception absolue ? À l'arrivée, j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie aussi.
En fait, moi, c'est un peu pareil pour le coup, parce que, en gros, j'ai mes fiches de personnages donc où ils ont chacun leur personnalité propre. Et après, pareil, je sais à peu près où je vais. Je sais ce que je veux raconter, mais en fonction vraiment de leur personnalité, des fois en fait, j'avais prévu de leur faire faire quelque chose, mais en fait, ce n'est pas possible. Par rapport à leur personnalité, ça ne marche pas, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est un peu comme si... En fait, quand j'écris, j'ai hâte de savoir la suite. Enfin, c'est quand même assez terrible, ça, mais c'est comme une série, en fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais en fait, c'est moi qui l'invente. Mais en fait, non, j'ai pas complètement la main là-dessus, en fait. J'ai des clés, mais il faut que ça s'imbrique d'une certaine façon pour que ce soit cohérent, en fait, que ça fonctionne. Et c'est pas des marionnettes, en fait. C'est des personnages qui ont une vie, voilà. Un peu comme mes histoires qui sont vivantes et tout. Enfin, c'est tout lié comme ça. C'est vrai que c'est marrant, cette envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment il va réagir. C'est assez fou, quand même.
Christian, Ariel, vous aussi, vos personnages, ils prennent leur indépendance ou vous êtes un peu plus ferme, vous, de votre côté?
Non, d'abord, pour que ce soit amusant, il ne faut pas tout connaître. Si je connais l'histoire à l'avance, ça ne m'intéresse pas de l'écrire. Il faut voir qu'un roman, ça ne s'écrit pas quand même en 15 jours. Donc, se dire que je vais passer un an et demi à dérouler une histoire que je connais par cœur, ce ne serait pas vivable. En revanche, ce que je fais volontiers, moi, c'est de me mettre dans la peau des personnages. Ce qui me permet de vivre plusieurs vies en imagination, certes, mais enfin, c'est déjà ça.
Et vous n'éprouvez pas de difficultés ? Ça ne vous pose pas de souci d'avoir, par exemple, un personnage féminin ? Vous pouvez vous glisser dans sa peau sans que ça...
Ah, au contraire, j'adore ça. D'accord. cela dit, j'espère être juste. Mais non, j'aime bien. Plusieurs de mes romans, d'ailleurs, en particulier en jeunesse, prennent comme héros une héroïne.
D'accord. Et bien, même question pour Ariel et Adeline, du fait que vous écrivez, c'est une femme, vous, c'est un petit garçon. Pas de difficulté particulière, ou vous vous posez même pas la question, c'est arrivé comme ça, le personnage s'est imposé en étant masculin ou féminin.
Moi, j'écris mes personnages féminins exactement comme mes personnages masculins. Et je pense que ça les rend plus justes, donc je fais vraiment pas cette différence a fortiori. Quand je suis dans la genèse de mes romans, il y a toujours, on va dire, une imposition d'un héros ou d'une héroïne dans l'esprit. Et voilà, je pars là-dessus. J'ai pas tendance vraiment du tout à modifier ma façon de penser, pour le coup, pour rebondir sur les personnages, j'ai tendance à les voir quand même, même s'ils ont leur indépendance, comme des extensions de leur créateur, de leur créatrice. Et c'est plus une façon d'opposer des points de vue. Chaque personnage va être une façon de, même une question. Deux personnages peuvent représenter une interrogation avec chacun une réponse différente qui peut être opposée ou complémentaire. Et là, encore une fois, effectivement, on essaye d'être juste quand on n'est pas forcément une femme ou un homme et qu'on va écrire le sexe opposé. Mais dans la réflexion du personnage, je ne pense pas que foncièrement les femmes pensent différemment des hommes. Donc, j'ai pas cet enjeu. Enfin, je sais pas.
Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on ne construit pas un personnage tout seul. On construit un personnage dans son interaction avec les autres personnages et avec l'univers dans lequel il évolue. Et donc, la vision que l'on peut en avoir, c'est aussi, elle est aussi déterminée par la forme de la société dans laquelle il vit, avec ses a priori, ses croyances, ses lois, son histoire. Donc, c'est ça qu'il faut créer. C'est ça qui est intéressant dans un personnage, c'est que il est un moment, je dirais, l'incarnation d'un moment historique.
Oui, c'est ça. Par exemple, quand il y a effectivement plusieurs héros comme ça, c'est l'interaction, c'est le fait qu'ils soient ensemble, ça crée une unité, ça crée un mouvement, ça crée. Voilà, ils peuvent se compléter ou s'opposer. Mais c'est vrai qu'en écrivant, je vais pas penser, je vais me dire, tiens, je vais faire un héros masculin ou une héroïne. Enfin. C'est par rapport à l'histoire, il va se trouver que bon, là c'était un petit garçon, donc il a un copain, une copine, enfin s'ils sont un trio, mais voilà, enfin ça s'est construit comme ça, mais après j'ai pas pensé de façon différente pour écrire l'action de chaque personnage, quoi. C'est ce qu'ils vivent qui fait leur action, mais c'est pas le fait qu'ils soient garçon ou fille en fait.
Mes personnages sont essentiellement des personnages féminins, mais c'est vrai que dans le roman jeunesse qui s'appelle Un caillou au fond de la poche, le héros s'est révélé un héros petit garçon et je n'aurais jamais imaginé que ça devienne une fille. Ça s'imposait. Alors il est né de plusieurs garçons de mon entourage qui présentent des troubles du spectre autistique et qui sont déficit d'attention et qui ont un surdoué, une douance. Et c'est vrai qu'ils sont restés garçons et le personnage est resté garçon. J'aurais pas pu écrire un personnage féminin avec tous ces petits garçons qui m'entourent et qui appartiennent en fait à cette catégorie, même si le terme n'est pas forcément bon. J'ai toujours un peu de peine à parler de ce roman parce qu'il me touche beaucoup du fait qu'il est très inspiré de ce qui s'est passé pour mes enfants.
Vous voulez nous en parler un petit peu ?
Alors, c'est une histoire de harcèlement scolaire et c'est un jeune garçon qui présente des troubles du spectre autistique qui se fait un jour sur le chemin de l'école voler ses devoirs et il va essayer absolument de s'en sortir par lui-même en cachant ce qui s'est passé à sa meilleure amie, qui est son soutien constant à l'école. Et évidemment, ça ne va pas tout à fait fonctionner comme il le souhaite. Mais heureusement, il a une remplaçante de français, on ne renie pas ses origines de prof, qui lui donne un caillou en lui disant que ce caillou va l'aider à prendre les bonnes décisions. Et elle lui raconte un conte de fées. Donc il y a du merveilleux, du fantastique sur le thème du harcèlement scolaire. Parce que non plus, je n'arrive jamais à écrire une histoire, ou presque jamais, sans y insérer une touche de merveilleux ou de fantastique. L'imaginaire, c'est quand même ma marque de fabrique avec les dragons et le chocolat suisse.
Et du coup, justement, vous faites tous et de l'adulte et de la jeunesse. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on écrit différemment pour les adultes ou pour les enfants ? Ou en tout cas, vous, est-ce que vous avez l'impression de travailler différemment ?
Alors, la réponse est oui, indubitablement, mais je ne sais pas dire pourquoi. Je veux dire que je suis arrivé par accident à la jeunesse, c'est une commande. C'est un éditeur qui m'a commandé un roman pour jeunesse. Et bon, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, ça va être facile, plus facile. Et en réalité, non, c'est pas plus facile parce que quand on écrit pour la jeunesse, il faut toujours se souvenir que le lecteur n'a pas forcément tous les codes de lecture. Donc il faut les lui donner, en particulier dans la construction du roman, rester quand même dans le linéaire ou ce genre de choses. Donc, je joue le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une tradition dans la littérature pour la jeunesse, c'est que le personnage principal soit jeune, même si il n'est pas de l'âge du lecteur, mais enfin voilà. Mais pour le reste, au code de lecture près, je ne m'interdis aucun thème et j'essaye d'être aussi clair et cohérent que je lutte avec mes éditeurs pour le vocabulaire parce que souvent ils disent c'est un vocabulaire compliqué. Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un vocabulaire compliqué. Je sais qu'il y a des mots qu'on rencontre moins fréquemment que d'autres, mais si on commence par les retirer de la lecture, on les rencontrera encore moins fréquemment. Donc on va arriver à 500 mots et je ne saurais pas faire. Donc voilà. Donc j'ai bien le sentiment que c'est indifférent, mais finalement, quand j'essaye de dire où est la différence, j'arrive pas à y toucher.
Moi, je n'ai pas eu l'impression d'écrire différemment. Par contre, j'ai écrit plus court. Mais au fond, de la même manière, je n'ai pas changé de vocabulaire. Et c'est vrai que parfois, des jeunes lecteurs ont trouvé le vocabulaire un petit peu difficile. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit le texte au passé simple et à l'imparfait, et que mon éditeur m'a proposé de le passer au présent, parce qu'il estimait que c'était plus dynamique, ce que j'ai fait, et effectivement, il avait raison. Mais de base, j'écris au passé simple, et devoir tout réécrire au présent, ça a constitué un certain défi tout de même.
Alors, pour le coup, moi, je n'ai pas écrit en adulte, mais je suis passée de la petite enfance aux premières lectures, donc dans l'autre sens en fait. C'est complètement un travail différent. Et pour le coup, j'ai réussi à écrire un roman première lecture quand même au passé simple à l'imparfait, et c'était une volonté de ma part. Alors les chapitres sont courts, donc du coup, voilà, on arrive à rentrer dedans. Mais c'était vraiment, j'avais pas envie d'écrire au présent ce que je fais pour les beaucoup plus petits. Mais pour les jeunes lecteurs, je me suis dit, par rapport à mon histoire, par rapport à tout ce que j'ai pu lire aussi, quand j'avais cet âge-là, j'avais envie de retrouver cette dynamique et voilà, je voulais pas passer au présent, qui est pour moi plus pour les petits encore. Mais même s'il y a des romans en présent pour de cet âge, je pense que tu écris peut-être pour les plus âgés. Pour les 9-12 ans. Moi je suis juste en dessous en fait, donc du coup, mais j'ai réussi à garder mon imparfait. Mais voilà, donc j'ai pas le lien, la différence, j'ai pas l'impression non plus de réduire mon vocabulaire. J'ai réussi à placer des mots que je voulais en les expliquant, les contextualisant en fait. Mais voilà, j'ai pas du tout été bridée là-dessus au niveau vocabulaire, donc j'ai cette chance pour le coup. Donc je sais pas ce que c'est qu'écrire pour les adultes. Au final, j'ai pas essayé de penser enfant pour écrire en fait. Je pense que c'est mon mode de pensée. C'est pour ça que je suis en jeunesse et puis pas en adulte. Je ne sais pas si j'arriverai à écrire pour les adultes. C'est encore complètement une autre démarche. Donc voilà, moi je suis dans l'autre cas inverse en fait.
Et l'éditeur du coup n'a pas cherché à vous dire par contre passer au présent contrairement à Florence.
Non, pas du tout. Ouais, okay. Non, il a complètement. Enfin, ça fonctionnait comme ça et du coup c'est très bien.
Moi, je vais faire un peu la synthèse de tout ce qui a été dit parce que je suis absolument d'accord avec tous mes collègues. Et moi non plus, j'ai jamais écrit de l'adulte. Je suis régulièrement classé dans la catégorie young adulte, qui est une catégorie vraiment fourre-tout et purement marketing. Ça va, on va dire, de 12 ans jusqu'à 35 ans. Je ne sais pas où s'arrête le young adulte. Mais j'ai effectivement écrit une duologie qui, elle, était ciblée sur un public 8-12 ans, où je n'ai pas non plus changé le style, j'ai pas essayé d'appauvrir mes écrits à ce niveau-là. Par contre, j'ai sans doute essayé de simplifier l'intrigue. Je pense qu'il y a une notion de simplification, peut-être au niveau de la façon dont on raconte, de la trame de l'intrigue. Donc quelque chose d'assez simple à prendre en main pour des lecteurs un peu plus jeunes. Je ne me suis pas lancé dans un roman choral avec plein de voix au chapitre, des twists, des, des trahisons, double trahisons, des contre-agents, etc. Je pense que pour une simple raison, peut-être d'attention et d'envie, quand quelque chose devient très compliqué, je pense par exemple à de la hard SF ou avec des explications vraiment poussées scientifiquement, ben là, clairement, un jeune lecteur n'a pas le bagage, à moins que ça soit un passionné, ce qui peut arriver. Vraiment, parfois, vous êtes surpris par l'âge de vos lecteurs quand ils viennent vous voir en dédicace. Effectivement, il y a aussi le code de lecture. On ne va pas faire l'apologie d'un certain nombre de choses moralement répréhensibles, mais d'un autre côté, on s'interdit jamais certains thèmes. Il y a des grands romans jeunesse qui abordent des thèmes très durs et très violents de façon très bien faite. Encore une fois, c'est pas en refusant d'en parler qu'on va ménager les lecteurs. Au contraire, il faut les confronter à ça avec intelligence et tact. Et voilà ce que je peux en dire. Donc j'ai clairement la même expérience que tous les autres.
Et du coup, votre rapport à vos lecteurs, est-ce que vous... bon, Adeline, vous avez surtout des jeunes, voire très jeunes lecteurs, mais pour ceux qui ont fait du coup de l'adulte et de la jeunesse, le rapport est différent quand les lecteurs viennent vous voir ? Peut-être plus de spontanéité ou pas ou...
Non, bon, moi j'ai fait effectivement un certain nombre de rencontres avec des jeunes. Disons que les jeunes sont plus bruts de décoffrage, c'est-à-dire quand ils ont quelque chose à vous dire, ils vous le disent. Les adultes, ils mettent peut-être soit ils évitent la rencontre, soit ils y mettent un peu plus les formes, mais sinon, je ne vois pas de grosses différences.
Vous avez eu des remarques désagréables?
Ah oui, ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Oui. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi il fait ça? Bon, voilà. Mais forcément, et puis, alors, chez les adultes, on a aussi ce genre de choses, mais ça s'appelle des critiques.
Les critiques sont des grands enfants, donc on peut le dire.
Moi, je trouve que le regard du jeune lecteur est extraordinaire parce qu'il pointe tout de suite aussi du doigt ce qui pique dans le roman et il le renvoie directement à l'auteur, effectivement. Brut de décoffrage, c'est un mot qui convient, enfin une expression qui convient parfaitement. Je les trouve extraordinaires, en fait, les jeunes lecteurs.
C'est vrai que moi, enfin, je suis quand même plutôt principalement... comme en contact avec des mamans ou des mamies pour la petite enfance. Donc, et j'ai quand même mes jeunes lecteurs qui viennent, mais c'est vrai que de les voir arriver, qui trépignent comme ça, qui ont un sourire jusqu'en haut, enfin c'est jusqu'aux oreilles, quoi. C'est vraiment ça fait chaud au cœur, quoi. C'est vrai qu'ils sont pas avares de leurs émotions, ils sont très vrais et très sincères, et ça fait énormément de bien.
Oui, avec le jeune lectorat, on va être vraiment dans de l'incisif, on est souvent dans des questions qui sont plus pertinentes qu'on l'avait même imaginé en écrivant les romans, parce que eux, ils se laissent pas abuser par les artifices qu'on peut déployer avec du style, avec ce genre de choses pour noyer le poisson, et c'est vrai que ça fait toujours des rencontres détonnantes et vraiment très intéressantes, parce que c'est un point de vue qu'on essaie de pas perdre quand on est auteur jeunesse, le regard de l'enfant, le regard de la jeune personne. Et c'est toujours rafraîchissant.
Vous avez des anecdotes?
Pas particulièrement, c'est plus, là pour en revenir, j'ai une saga young adulte qui est assez sombre qui normalement est conseillée à partir de 12 ans, et j'étais surpris une fois de voir trois petites filles qui devaient avoir entre, je dirais, 7 et 9 ans maximum venir vers moi, et elles ont pris un des livres de cette saga et m'ont demandé de le dédicacer, et je leur ai dit tu es sûr que tu veux lire celui-là? Je suis un peu tendu la main vers les 8-12 ans que j'avais écrit, et la petite fille, elle a dit « Oh, mais je l'ai déjà lu, j'ai même lu les trois. Celui-là, c'est juste que je l'ai lu en e-book ou je l'ai emprunté à la bibliothèque, je ne sais plus. » Donc, elle avait déjà tout dévoré. Donc, encore une fois, je lui ai fait un procès d'intention. Elle en savait plus que moi sur ce qu'elle voulait et ce qu'elle aimait, donc voilà.
Des anecdotes, les autres, non?
Alors, moi j'en ai une pour le caillou au fond de la poche, parce que je l'ai placé dans ce qu'on appelle en Suisse un cycle d'orientation, qui est une école qui correspond à peu près au collège en France. Et vu que mes enfants ont fréquenté cette école, j'avais à peu près la disposition des bâtiments. Il a été lu dans une des classes du cycle et la première remarque qui m'a été faite, mais honnêtement, il n'y a pas de passerelle entre les bâtiments A et B. Donc comment est-ce qu'ils peuvent voir du haut de la passerelle? Effectivement, la liberté de l'auteur.
On va revenir sur l'évasion, parce qu'on est parti un peu plus loin, mais c'est pas grave, c'est très bien. La dernière fois que vous vous êtes évadé en lisant ou à la limite en écrivant un roman, ou la dernière fois ou une fois où vous vous êtes évadé?
Une évasion dans un thriller, un roman policier très noir, ça compte ou c'est considéré comme un enfermement?
C'est une bonne question.
Je ne suis pas lectrice de romans policiers et j'ai récemment découvert Franck Tillier parce que mon mari insiste tout le temps pour que je le lise. Et effectivement, je me suis évadée dans un autre monde, mais je ne suis pas sûre d'en ressortir indemne.
Tout dépend de ce qu'on appelle l'évasion. Évidemment, chaque lecture, c'est le... l'occasion de rentrer dans un monde différent et donc quelque part d'échapper au nôtre, bon, à condition d'y revenir évidemment, puisque c'est aussi la fonction de la littérature que d'éclairer notre monde avec un décalage. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de temps en temps prendre des romans issus d'une autre nation. Et voir, essayer de me plonger dedans. Quoi, quand vous lisez un roman chinois, par exemple, c'est une autre façon de penser. Donc forcément, que si vous vous fondez dedans, vous vous évadez de votre quotidien.
Alors, j'ai adoré Autre Monde aussi. Vraiment, on rentre vraiment dedans. Après, c'est vrai que dans les évasions, il y a tellement de livres dans lesquels, finalement, on plonge dans des univers tellement riches. J'ai pas forcément un titre en tête, mais c'est vrai que dernièrement, je me suis replongée dans des très, très vieux textes. Et c'est assez marrant, parce que du coup, les tournures de phrases sont complètement différentes. Et vraiment, pour le coup, non seulement il y a l'histoire, mais en fait, il y a tout le contexte historique, les expressions. Enfin, tout est différent, même le français est différent. Enfin, et du coup, ça, c'est aussi une forme d'évasion, de replonger dans des anciens textes comme ça. Donc, du coup, par exemple, dernièrement, j'ai lu Le gardien de feu d'Anatole Le Braz. Là, en fait, je suis en train de tout dévorer, parce que, voilà, j'aime beaucoup ces textes. Donc il y a un auteur breton qui a beaucoup fait de retranscriptions de contes. En fait, il a récolté en fait des contes, il les a retranscrits et il a écrit aussi quelques romans. Enfin, Le gardien de feu, c'en est un. Et donc ça parle d'un gardien de phare. Et du coup, il y en a aussi tout l'imaginaire autour des phares et tout. Enfin, vraiment, on est dans l'histoire et en plus avec ce vocabulaire ancien. Voilà, c'est un peu ma dernière évasion en fait, enfermée dans un phare. C'est fort quand même.
Oui, alors moi, pour m'évader, je préfère être dans une atmosphère plutôt que forcément d'être dans un univers extrêmement différent d'une autre. Donc, il y a un courant que j'aime beaucoup et que je lis souvent pour m'évader, qui est le réalisme magique, qui est la version, on va dire, littérature blanche de l'imaginaire et du fantastique. C'est une façon un peu plus intellectuelle de dire ça. Et c'est surtout un courant qui est très ancré dans les grands écrivains d'Amérique latine, etc. Comme Gabriel Garcia Marquez, si vous connaissez. Et moi, j'ai lu un italien, donc un contemporain, Alessandro Baricco, si vous avez entendu parler. J'ai lu dernièrement Océan Mer, c'est une galerie de personnages assez intéressant et complètement décalé. Comme on en a souvent dans des livres de réalisme magique, et notamment par exemple un peintre qui peint avec de l'eau de mer ou un évadé de prison qui s'interroge sur sa place dans le monde, et ils sont tous regroupés, ces six personnages, au cours d'une tempête, là encore, il y a un petit côté phare, sur une bâtisse au bord de la mer et qui va être ravagée par l'océan. Et oui, c'était vraiment poignant dans le lyrisme dégagé par le style, et puis ça racontait vraiment quelque chose qui était hors du monde, comme une espèce de petite bulle. Donc c'était une forme d'évasion très forte pour moi.
Donc vous y avez un petit peu répondu. Je voulais terminer sur toute dernière question, parce qu'on va arriver au bout de cette table ronde. Du coup, c'est quoi l'évasion ? Donc visiblement pour vous, c'est l'enfermement. C'est ce qu'on a cru comprendre. Est-ce que l'imagination, c'est la clé de la liberté, finalement ?
L'imagination, c'est quelque chose qu'on commence par vous interdire. Quand vous allez à l'école, on vous explique que la bonne façon de penser, c'est de raisonner, pas de rêver. Et effectivement, je pense que les sociétés ont besoin de se clore sur elles-mêmes et de mettre des verrous pour fonctionner. Sauf que quand ça coince, la raison ne suffit pas forcément. Et qu'il faut aller au-delà, et c'est là où effectivement l'imagination, l'imaginaire et la littérature peut être d'un grand secours. Donc c'est quelque chose. Alors quand j'ai exagéré en disant qu'on commence par vous l'interdire, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, on vous explique que les maths c'est mieux que le français, quoi. Un peu de choses près, moi c'est ce que j'ai entendu pendant tout mon secondaire, et je comprenais rien aux maths. Ça s'est arrangé par la suite, non, c'est vous. Mais donc je pense que l'imaginaire, c'est aussi une faculté à cultiver au même titre que d'autres façons de raisonner. Maintenant je donne la parole à l'enseignante.
Alors l'enseignante de français n'est clairement pas prof de maths, parce qu'elle est incapable de compter juste les points dans la marge. Donc la première chose que je dis à mes élèves, c'est recompter. Je suis sûre de m'être trompée pour certains d'entre vous. Sinon, moi j'aime bien faire travailler les élèves sur leur imagination. J'anime souvent des ateliers d'écriture en classe, parce que je pense justement qu'ils doivent apprendre à chercher le bonheur dans les détails de la vie, et que ça passe par l'imagination. Pour moi, l'imagination, c'est ce qui nous fait tous vivre, en fait. Sans imagination, qu'est-ce qui nous reste à l'arrivée ?
C'est vrai que c'est ce que je remarque en atelier, justement en classe, quand je fais des ateliers d'illustration, pour le coup. Les enfants souvent bloquent, ils ont besoin d'un modèle, d'un cadre. Et quand je leur dis, mais non, tu peux dessiner comme tu veux, tu peux donc essayer de faire travailler leur créativité et leur imagination, ils ont peur. Et c'est vraiment un travail pour les rassurer en disant, mais non, je ne sais pas dessiner. Mais si, tu sais dessiner, c'est juste, vas-y, n'aie pas peur. Fais travailler ton imagination. Et en général, ceux qui me disaient au départ, mais non, je vais pas y arriver, je sais pas imaginer, c'est ceux qui me font un dessin vraiment super, quoi. Donc c'est un manque, une peur de l'inconnu, finalement, de se laisser aller et de rêver, quoi. C'est terrible quand même, hein.
Oui, pour moi donc l'imagination, c'est toujours, on a tendance à rendre ça un peu futile, oui, dans l'enseignement, etc., l'apprentissage dur, mais pour moi, c'est pas vraiment une évasion, c'est plus une bifurcation de passer par l'imaginaire. On aboutit toujours à quelque chose de concret au final. Faut pas oublier que n'importe quelle invention scientifique, n'importe quelle conception du monde, n'importe quelle idéologie a d'abord été imaginée. Elle n'existait pas forcément avant, ou observée du moins. Et l'observation, l'imagination développe beaucoup la capacité d'observer. Et voilà, donc... c'est pas quelque chose à... On n'essaye pas de s'échapper d'un carcan forcément avec l'imagination, même si effectivement ça peut arriver dans certaines situations, mais on va passer par des chemins de traverse pour aboutir à quelque chose de différent et potentiellement mieux. Donc voilà, pour moi c'est pas quelque chose, encore une fois, ouais, à dénigrer ou à essayer d'asphyxier chez les jeunes lecteurs.
C'est bon, vous n'avez rien à ajouter à... Ariel aura le dernier mot. Et donc Ariel aura le dernier mot. Cette table ronde doit se terminer, il est l'heure. Vous pouvez toutefois poursuivre l'échange avec les auteurs qui sont... Vous êtes tous les quatre sous le chapiteau qui est à côté du parking Clémenceau. Donc voilà, vous pouvez les retrouver là pour continuer à discuter avec eux, pour voir leurs livres, vous faire dédicacer leurs ouvrages si vous le souhaitez. Merci pour votre attention.